Bienvenue sur Radio Okapi, ici Walter Mulundi au micro de Okapi Action. L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. Okapi. Bonjour, Okapi Action aujourd'hui, projecteur sur le sida. Le taux d'infection se maintient à la hausse dans nombreux pays d'Afrique subsaharienne. En 2003 seulement, on estime que 3 millions de personnes de la région ont été nouvellement infectées. De nouvelles épidémies semblent progresser sans frein dans notre région, notamment en Europe orientale et en Asie, régions qui dans le monde connaissent les épidémies à la croissance la plus rapide. Au menu aujourd'hui, nous nous rendrons dans les salles d'attente des centres de dépistage. Nous passerons par le couloir des centres de traitement contre le VIH SIDA. Le SIDA tue, tout le monde peut l'attraper, mais tout le monde peut l'éviter. Des entrepreneurs se liguent contre le VIH SIDA. Certaines entreprises congolaises ont intégré des programmes spécifiques de sensibilisation contre le SIDA en milieu professionnel. Pourra-t-on venir à bout du VIH-SIDA? Des chercheurs s'activent nuit et jour à lutter contre la pandémie. Une lueur d'espoir, un vaccin thérapeutique contre les virus du SIDA, conçu par des chercheurs français, a permis de baisser la charge virale des 18 patients vaccinés et d'augmenter le taux des lymphocytes CD4, des cellules des systèmes immunitaires dont la concentration chute chez les séropositifs. Ces chercheurs, c'est Jean-Marie Adrieux et Louis Weilou du Centre biomédical de Saint-Père. Ce vaccin n'est pas préventif, il ne prémunit pas contre l'infection, mais il a une action thérapeutique. Il vise à réduire la quantité du virus dans l'organisme. La piste mérite d'être creusée plus avant.
Okapi. Okapi à Kinshasa, sur 103.5 FM.
Le 1er décembre chaque année, depuis 1988, le monde entier se ligue contre la maladie du siècle, comme on dit, la pandémie du sida. De nombreux programmes à travers le monde montrent que on peut vivre bien et longtemps avec le virus, le VIH-Sida, si et seulement si on traite les maladies dites opportunistes dès qu'elles apparaissent ou si on les prévient. Il convient de se faire dépister à temps, ça c'est la plus grande chose à faire et la plus importante. Le corps médical encourage donc le dépistage volontaire. Il faut connaître sa sérologie parce que dans cette matière il y a trois catégories, les séropositifs, les séronégatifs et les séroignorants. À Kinshasa, il existe un centre qui assure ce dépistage. Il s'agit du centre de traitement ambulatoire du Kabinda. Ce centre prend en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida et assure le dépistage volontaire. On parle de cette expérience avec Sylvie Sona. Sylvie, bonjour.
Bonjour, Alter.
Alors, vous êtes rendue dans ce centre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer le centre de traitement ambulatoire du Kabinda?
Nous sommes effectivement rendus dans ce centre, Walter. Il est situé sur l'avenue Kabinda, dans l'enceinte même du centre de dépistage de la tuberculose, dans la commune de Lingwala, en face de la RTNC. Ce centre est une initiative du Programme national de lutte contre le sida et de Médecins sans frontières.
Comment accéder à ces centres? Y a-t-il des conditions spécifiques?
Toute personne qui le désire peut faire un dépistage du VIH dans ce centre. Il est gratuit et confidentiel. Tout le monde y a accès.
On note un mot confidentiel, confidentialité. Comment est-ce que ça se passe pour garantir la confidentialité de ceux qui viennent?
Selon les informations que nous avons recueillies sur place, avant le test, les conseillers donnent toutes les informations utiles et répondent aux questions des patients. Après le test, s'il est négatif, les conseillers insistent sur les moyens d'éviter le VIH-Sida à venir. Si le test par contre est positif, les conseillers accompagnent le patient et l'encouragent à bien vivre et longtemps avec ce virus. Ce test se fait dans la confidentialité la plus totale. Personne ne peut venir réclamer vos résultats, ils ne vous seront divulgués qu'à vous seul.
Mais voilà, dites-nous Sylvie, beaucoup de gens connaissent peut-être ce centre, il y en a qui connaît l'attitude psychologique vis-à-vis de la pandémie déjà depuis plusieurs jours. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une forte fréquentation du centre? Est-ce que vous avez peut-être rencontré quelques personnes qui sont venues se faire volontairement dépister?
La première chose qui nous a impressionné en entrant dans ce centre, c'est d'abord la propreté du centre. Mmh. Et nous avons remarqué qu'il y avait pléthore Il y avait plein de gens qui étaient assis dans les bancs, qui étaient en train de suivre des conseils, d'une petite formation là. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation d'interviewer ces personnes dans ce centre, vu le caractère de confidentialité.
Évidemment.
Mais nous sommes descendus dans la rue, tout juste dehors, hein, avant d'entrer dans le centre. Mmh. Et nous avons interrogé les passants pour savoir s'ils se sont déjà fait dépister, donc s'ils avaient déjà fréquenté ce centre. Mmh. Écoutez ce qu'ils nous disent, hommes et femmes confondus.
Je l'ai déjà fait à 3 reprises, sauf que à la première fois, je m'étais préparé pour recevoir le coup, quand j'étais séropositif, donc j'allais vraiment m'investir pour combattre le sida. Dieu me sait que ça n'a pas été le cas.
Lorsque vous avez découvert que vous n'étiez pas séropositif, quel sentiment vous a animé à cet instant-là?
J'ai eu un sentiment de satisfaction et je m'étais dit qu'il fallait plus renforcer ma discipline pour ne pas succomber à toutes les belles dames, parce qu'il y en a assez beaucoup.
Non, la saleté maintenant au salon.
Vous, quand vous salon, Mikolo?
Fallait la salon, on peut se mettre à l'eau. Et ça bien pour la bisobana au Congo, fallait nous sauter ça bien, merci d'être.
Au salon, on va bien.
Dans le salon, partout, hôpital, surtout dans le monde, et c'est plus ça, côté Seigneur, indiqué, il y a moins dans le salon.
Et là, on est indiqué aux décisions qui sont au salon.
Bon, on a tamboli trop, on a basse belé, on a Angola, on a Congo, Congo Brazzaville. Il y a moins dans le pays, et dans le fallait qu'on ait dans le état santé de l'insalé.
Vous bangatez?
Non, bangélo, moi, t'es pas en aïe, que mon nom a moutala, il s'en a surtout. Fallait que mon gangaï bisanga oeza nan soto nanaï.
Je n'ai jamais fait ça.
Pourquoi?
Je ne suis pas intéressée.
Pourquoi ne l'êtes-vous pas?
Parce que je suis saine.
Comment savez-vous que vous êtes saine?
Moi? Ça fait. Je suis saine. Je sais, je connais mon corps, je suis saine.
Comment savez-vous avec exactitude que vous êtes saine? Dites-nous.
J'ai fait les examens, évidemment.
Les examens?
Nervé.
Vous avez déjà fait dépister?
Je suis saine.
Depuis combien de temps l'avez-vous fait?
Ça fait une année.
Depuis, vous n'avez pas refait cet examen?
Non, pas encore. Parce que je sais, j'ai confiance, je ne fais plus ces histoires, j'ai déjà abandonné.
Quelles histoires?
Je ne vais plus avec les hommes.
Et voilà, des points de vue sur le dépistage volontaire. Vous les avez entendus, hommes et femmes confondus. Revenons au centre de traitement ambulatoire de Cabinda avec vous, Sylvie. Est-ce que le centre propose également un traitement pour les personnes séropositives? Est-ce que on met à disposition de ces personnes vivant avec le VIH SIDA des antirétroviraux?
Nous avons posé cette question au docteur Catherine Van Overloop, qui est médecin chef de projet SIDA au sein de MSF Belgique. Écoutez sa réponse.
On a un service où on fait le dépistage et ensuite les gens qui sont séropositifs, ils sont guidés vers la consultation et ils entrent alors dans le service de traitement. On donne des consultations et dans les consultations, on donne des traitements pour les infections opportunistes. On donne la prophylaxie contre moxazole et fluconazole si c'est nécessaire. Et là,
tous les médicaments que vous venez d'énumérer, c'est contre quoi? Expliquez-nous un peu.
En fait, le cotrimoxazole, c'est le Bactrim aussi, qu'on appelle le Bactrim, et c'est le plus important, c'est-à-dire à partir qu'un PVV est en stade 2, donc à partir qu'il fait des petits symptômes, quand il prend 2 comprimés de Bactrim par jour, ça va lui protéger contre toutes les infections, contre des infections spécifiques. Nous avons commencé à mettre des patients sous antirétroviral en octobre 2003. Donc maintenant, ça fait un peu plus qu'une année. Et on a mis plus ou moins 450 patients sous traitement.
Et sur ces 450 personnes, combien vivent toujours?
Il faut calculer plus ou moins 9% comme un taux de mortalité. Donc les, disons, 450 moins plus ou moins 40, 410. Qui sont encore en vie.
Bien, voilà, on vient d'entendre Dr Catherine Van Overloop, médecin-chef du projet SIDA pour l'ONG Médecins Sans Frontières, section Belgique. Pour revenir à ce qu'on vient d'entendre, Sylvie, une question quand même intéressante. Elle nous a dit que les malades qui passent par le CTA, le centre de traitement ambulatoire de Cabinda, sont sous un antirétroviraux depuis quelques mois. Une question, est-ce que ces personnes vivant avec le VIH paient leur traitement? Parce que nous le savons, ces médicaments ne sont pas accessible à toutes les bourses, c'est passé des $100 par mois à $30 environ aujourd'hui.
Docteur Catherine nous a renseigné qu'il ne paye qu'un montant symbolique de 50 francs congolais. Ce montant prend en charge aussi bien les maladies opportunistes que les traitements par antirétrovirus. Donc 50 francs.
Mais est-ce que des centres similaires existent à travers la République démocratique du Congo en dehors de ce centre de Kabinda?
Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que trois. Nous a-t-on renseigné à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Mais il faut préciser que seuls les PVV ont accès à ce genre de centre.
Vous avez un petit champ dans la gorge, ça arrive. Rappelons aux auditeurs que dans Okapi Action, nous décrivions un centre qui venait d'ouvrir ses portes à Goma, un centre qui est animé par l'ONG Médecins du Monde. C'était aussi une expérience.
Mais ce centre, c'était juste pour le dépistage volontaire.
Dépistage volontaire.
Mais, tandis que les centres de Médecins sans frontières, ils assurent également, ils disponibilisent les antirétroviraux.
Voilà, c'est déjà une étape, déjà d'inviter les gens à venir se faire dépister, connaître déjà sa sérologie, c'est un grand pas. Au-delà des antirétroviraux et moyennant ce paiement de 50 francs symboliques, qu'est-ce que le centre de traitement ambulatoire du Kabinda offre de plus aux personnes vivant avec le VIH-Sida?
Outre le traitement et le dépistage volontaire, MSF leur donne une aide alimentaire et un soutien psychologique, social et social. Le docteur Catherine donne quelques précisions sur le kit alimentaire.
On donne pour les patients qui sont vraiment mal nourris, sévères, là on les donne de l'aide alimentaire ici dans le CTA. On donne un paquet de ce qui nous est donné par le PAM, par le projet alimentaire mondial. Et il y a du sucre dedans, du sel, de l'huile, la farine de maïs, les haricots et le CSV.
De l'argent également?
On donne parfois de l'argent, disons pas de l'argent en cash, mais en aide pour le transport par exemple.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont hospitalisées ici?
Non. Oui et non. Ça veut dire une hospitalisation où les gens restent passent la nuit? Non. Mais on hospitalise pendant la journée, le temps que ce qui nous suffit pour, par exemple, réhydrater les gens, faire une transfusion sanguine, et le soir, ils rentrent à la maison.
Et s'il est incapable de rentrer, il se sent tellement faible qu'il n'est incapable de rentrer chez lui, qu'est-ce que vous faites?
On hospitalise.
Et donc, où?
À l'hôpital Saint-Joseph. On a un partenariat avec l'hôpital, et donc les patients qui sont la plus souvent indigents, on les hospitalise. Et c'est dans le cadre du projet.
Le thème, c'est femmes, jeunes filles et SIDA. Est-ce que lorsque vous avez rencontré notamment Dr Catherine de Médecins sans frontières Belgique, est-ce que vous avez abordé cet aspect des choses? Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des cas, des contaminations du VIH-SIDA du fait des violences sexuelles?
Elle nous a effectivement dit qu'il existait quelques cas de ce genre, mais qu'il était très difficile de les chiffrer dans la mesure où peu de femmes dénoncent ces cas de viol. Elles préfèrent cacher qu'elles ont été violées et c'est difficile pour eux de savoir que telle ou telle personne a contracté la maladie par viol.
Voilà.
Il faudrait, avant que...
Oui, je vous en prie.
Il faudrait souligner une chose, ce centre, à un moment donné, ils sont en train de laisser le dépistage volontaire. Ils voudraient plus accentuer leur programme dans le traitement des maladies opportunistes et de la disponibilisation des antirétroviraux,
ce qui permet aux malades de vivre plus longtemps.
Ils ont remarqué que d'autres centres à Kinshasa faisaient le dépistage volontaire. Mm. Eux préfèrent maintenant se focaliser sur le traitement.
Sur le traitement, ça permettrait aux malades de vivre plus longtemps et qui sait peut-être avant le moment fatidique que le vaccin sera déjà là, comme ces vaccins thérapeutiques qui a été testé sur un échantillon réduit des personnes, mais ça donne une nouvelle piste vers la recherche. On en parlera tout à l'heure avec d'autres invités. Le sida, ce n'est pas l'affaire des autres, ça concerne tout le monde. Tous ensemble contre le VIH-Sida, c'est le maître mot aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Walter.
Pour commenter ce premier thème d'aujourd'hui dans ce magazine Okapi Action, nous recevons le professeur Saka Saka. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes consultant national chargé de la communication au niveau de l'ONU SIDA. Nous abordons cette question aujourd'hui. D'abord, un constat amer, c'est que les taux d'infection se sont... il y en a encore davantage cette année.
Oui, bien sûr, à un moment donné, on a pensé que les taux d'infection s'étaient plus ou moins stabilisés, mais en réalité, il y a une progression. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que cette progression est observée principalement chez les jeunes. c'est-à-dire ce qui peut représenter l'avenir de notre pays. Et les tendances, en plus d'être tournées vers les jeunes, sont également à la féminisation de l'épidémie. C'est-à-dire que parmi les jeunes, il y a de plus en plus des femmes parmi les nouveaux cas.
Pourquoi ? Comment est-ce qu'on explique qu'il y a davantage de jeunes d'abord et puis des femmes en plus ?
Bon, mais je crois que l'explication, il doit y avoir certainement beaucoup de facteurs. En ce qui nous concerne, je crois qu'on met beaucoup l'accent sur les facteurs de vulnérabilité. Les femmes sont effectivement beaucoup plus vulnérables à l'infection à VIH du fait d'abord des facteurs biologiques, mais aussi du fait des facteurs culturels et disons de notre contexte. Vous savez par exemple que dans un pays comme la RDC qui se remet très lentement d'une guerre de plus de 5 années, on a connu beaucoup de violences et dans les situations de conflit, il y a généralement beaucoup de violences, y compris des violences à l'endroit des femmes et des jeunes qui sont généralement sur la première ligne de front dans les forces combattantes, mais aussi qui connaissent des déplacements massifs et des situations de paupérisation accrue. C'est autant des facteurs qui effectivement exposent les jeunes à des infections chaque fois en forte augmentation.
Oui, par rapport au VIH, SIDA, professeur Sakasaka, il y a cette tendance aujourd'hui à se coaliser. Il y a davantage de coalitions au niveau institutionnel pour faire face contre le VIH-SIDA et faire une espèce de synergie de tous les efforts en vue de vaincre le SIDA. C'est un espoir vers lequel on se dirige. Au niveau de l'ONU SIDA, principalement le bureau de la République démocratique du Congo, comment se présente cette synergie, ce rassemblement contre le SIDA?
Oui, moi je suis content de vous entendre dire ça. Ça signifie que effectivement vous militez avec l'ONU SIDA vers cet objectif, parce que l'objectif premier de l'ONU SIDA, c'est la constitution d'un front commun face à l'épidémie. Et si ce front se met en place, je pense effectivement que nous allons dans la bonne direction, parce que nous sommes là d'abord pour aider le monde à prévenir les nouveaux cas d'infection à VIH, mais aussi à prendre en charge les personnes qui sont déjà infectées par les VIH et les personnes qui sont affectées par cette épidémie. Et je crois qu'il faut pour cela mettre en place, si vous voulez, un appui, une action large, un grand mouvement d'engagement. Et ici, nous voudrions avant tout engager la société civile. Et nous avons dit que sont principalement concernés les jeunes et les femmes. Nous aimerions donc que la société civile joue un rôle de premier plan. Et au sein de la société civile, nous voudrions travailler davantage avec les organisations des jeunes et les organisations des femmes. Mais, comme vous le savez, les médias ont joué un rôle capital, notamment dans les facilités, dans le plaidoyer pour avoir un meilleur accès aux médicaments et aux traitements. Et donc, nous comptons énormément sur l'action des médias pour engager ces grands mouvements de tous les partenaires, qu'ils soient du gouvernement, de la société civile, que du secteur privé, pour justement aller ensemble affronter cette épidémie et essayer de réduire son impact sur les familles et sur les communautés.
Professeur Sakasaka, vous avez mis la main sur une cible spécifique. Vous avez cité un des canaux de communication, notamment les médias. Mais pour quel message phare vous allez orienter vers ces cibles-là, les plus touchées aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a pas lieu d'utiliser d'autres canaux de communication? Parce que d'ailleurs, c'est votre spécialité.
Oui, bien sûr. Les médias ne sont pas les seuls canaux. C'est vrai que nous avons besoin des médias d'abord pour le plaidoyer. Vous savez qu'aujourd'hui, et j'étais content de l'entendre parler, l'accès à certains services, notamment l'accès aux tests, reste encore très limité. Mais on peut aller plus loin. L'accès aux préservatifs, qui est un de moyens qui permet de se protéger de l'infection à VIH, est encore limité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des avancées significatives avec notamment la mise au point du préservatif féminin.
Le féminin.
Voilà, qui donne plus de liberté et plus d'autonomie aux femmes de pouvoir en user même quand les hommes sont réticents. Mais regardez sur les marchés, ces préservatifs, on les trouve à quelle quantité et on l'obtient à quel prix. Donc, il y a encore des gros efforts à faire en termes de plaidoyer pour rendre ces services disponibles. Et ça, les preuves sont là. Ailleurs dans le monde, c'est principalement les médias qui ont aidé. Ce sont les médias qui ont amené la grande industrie pharmaceutique à pouvoir accepter que des médicaments soient produits sous la forme générique et soient plus accessibles au plus grand nombre. Mais bien sûr, en ce qui concerne le changement de comportement, lorsque lorsque le plaidoyer nous aura aidé à rendre accessibles les services, il faudrait travailler maintenant avec les individus, avec les communautés, pour changer les comportements. Et à ces niveaux-là, bien sûr, la communication interpersonnelle, la mobilisation sociale, c'est des stratégies qui sont tout à fait pertinentes. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que la société civile monte en première ligne pour pouvoir justement créer ces vastes mouvements d'engagement et provoquer ces changements pour que finalement l'épidémie soit plus ou moins stabilisé, sinon maîtrisé et vaincu.
Pensez, c'est que lorsqu'on parle de société civile, apparemment vous vous appuyez là-dessus, c'est une bonne chose, mais lorsqu'on entend parler de société civile, on voit des groupements constitués, des rassemblements de certaines ONG, qu'on va parler à la télévision pour réclamer ces choses-là, droits humains, c'est vrai, c'est une bonne chose, ou certains ont la société civile qui se bousquille au portillon des négociations politiques en vue d'intégrer le Parlement, d'être au ministère, mais le gros de la communauté, c'est ces personnes qui sont dans les marchés, ces écoliers qui sont dans leurs écoles, dans les universités, et ceux qui sont dans les champs, dans leur lieu de travail. Comment atteignent ces personnes dans les carrières minières, notamment, où la prostitution est galopante? Comment atteignent ces autres catégories-là?
Oui, nous, quand nous parlons de la société civile, effectivement, nous voyons cette société civile-là. Aujourd'hui, tout notre appui est en train de s'orienter vers les organisations des jeunes en vue d'une élaboration de réponses locales. Si vous allez aujourd'hui à Massina, vous allez trouver des jeunes qui sont dans la communauté et qui discutent avec les parents et entre eux. Ils discutent entre eux pour essayer de situer leur niveau dans la lutte contre le VIH-SIDA, mais en vue d'un dialogue, d'abord entre eux, pour pouvoir voir qu'est-ce que les jeunes garçons par exemple, peuvent apporter aux jeunes filles et vice-versa. Mais après, lorsque les jeunes ont conçu et élaboré la réponse des jeunes à l'épidémie du VIH dans une communauté comme un quartier de Massina, ils ont besoin de confronter ce que eux savent à ce que les parents savent. Donc, c'est cette réponse vraiment au niveau local. Ce n'est pas exclusivement au niveau national. C'est vrai que cette réponse locale permettra d'élaborer une réponse nationale, une riposte nationale à l'épidémie. Mais nous voudrions vraiment aider à ce que ça se fasse au plus bas niveau et avec la participation de tout le monde. Parce que si aujourd'hui nous voulons aider les communautés, il est important que nous sachions quels sont leurs points forts en matière de lutte contre le VIH, quels sont les points
déjà en matière de prise de conscience.
Voilà, et quelles sont les priorités. Si effectivement le test, le préservatif sont considérés aujourd'hui comme des moyens précieux pour essayer de prévenir l'épidémie, mais il est important d'évaluer dans toutes nos communautés, dans tous nos villages, où est-ce qu'on en est. Est-ce que le préservatif est disponible? Est-ce que les tests sont disponibles? Est-ce que les gens savent qu'ils ont besoin de faire les tests pour connaître leur statut? Est-ce qu'ils font les tests?
C'est parmi les plus grands défis à relever.
Voilà, c'est parmi les plus grands défis et nous pensons que c'est la société civile qui peut très raisonnablement nous y amener. Mais
ça, vous ne pensez pas qu'en utilisant le terme toujours communauté locale, que c'est mieux que société civile qui est plus générique parce qu'il y a cette confusion?
Bien sûr, nous disons la société civile au premier plan, mais nous n'oublions pas le rôle du gouvernement et le rôle du secteur privé. Donc nous travaillons en partenariat et en synergie dans un mouvement d'engagement global.
Professeur, on va devoir passer à un autre aspect de cette question par rapport au SIDA. Mais aujourd'hui, parmi d'autres canaux qu'on utilise, il y a notamment l'art, la culture, la musique, le cinéma. Parlant de musique, lorsqu'il y a dans certaines chansons des phrases comme Nzoto Mama Elengi Elengi, Nzoto Mama Misuni Misuni, ou certaines tenues, je sais pas, est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de messages attirent plutôt vers la sexualité que par rapport au SIDA?
Bon, nous n'allons pas rejeter la sexualité. D'ailleurs, il y a une année ou deux, le mot d'ordre c'était laisser vivre. La vie doit se poursuivre. Nous n'arrêtons pas la vie et nous ne décourageons pas la reproduction. Mais nous disons que la sexualité doit être responsable. Et elle doit tenir compte de tout ce qui nous menace. Et aujourd'hui, je crois qu'on parlait tout à l'heure du village, on en parle peut-être pas suffisamment. Lorsque vous prenez un paysan qui produit la nourriture que nous consommons, lorsque dans une famille de paysans, les sida s'introduit, vous perdez le père et la mère, vous avez souvent des orphelins qui n'ont pas eu le temps d'assimiler toutes les techniques culturelles utilisées par les parents pour produire la quantité de nourriture que les parents produisaient. Donc la famille s'installe dans cette famille-là, mais puisque la production de cette famille servait à nourrir la communauté, mais la famine va se répercuter au niveau de la communauté et au niveau national. Et plus grave, nous allons hériter des orphelins qui non seulement n'ont pas appris les connaissances qui permettaient à leurs parents d'entretenir la communauté, mais ne sont pas encadrés du tout et sont délaissés à eux-mêmes.
Sont affectés.
Qui sont affectés, voilà. Donc ce sont ces nombreux défis auxquels nous devons faire face pour essayer de penser à un avenir et à un devenir pour notre pays.
Voilà, professeur Sakasaka, je rappelle que vous êtes consultant de l'ONU SIDA, chargé de la communication. Quelques questions de nos auditeurs. Paloukou qui nous a appelé de Kinshasa, combien ça coûte? Est-ce qu'ils ont des produits pour les traitements? J'imagine qu'il fait allusion aux antirétroviraux et au point que nous avons fait au centre des traitements ambulatoires. Professeur, vous avez une idée du prix des antirétroviraux?
Bon, je pense que actuellement ici à Kinshasa, le traitement c'est autour de $29 le mois. Mais il y a des efforts qui sont faits pour que cela soit ramené encore plus bas. Et on a parlé de $11 notamment qui est pratiqué en Afrique de l'Ouest. Je pense que dans un avenir pas très lointain, on pourrait peut-être nous aussi aller vers ces prix-là.
Et voilà, Pierrot Kemaï de Lubumbashi veut avoir des précisions sur les séro-ignorants. Qui sont-ils? Bien, il y a trois catégories. Les séropositifs, ceux qui connaissent leur état sérologique et qui s'est avéré positif. Okay. Les séronégatifs qui
connaissent également.
Qui connaissent parce qu'ils ont fait les tests, et les séro-ignorants n'ont jamais fait de dépistage, voilà. Et ils ne connaissent rien.
Et nous les encourageons, nous considérons que c'est un moyen de prévention important. C'est-à-dire que de savoir quel est son statut, ça vous permet de planifier pour l'avenir.
Et d'avoir un comportement responsable.
Exact.
Et puis Pascal Mouindo qui nous appelait des Bukavu, pourquoi ne pas initier l'idée dans d'autres parties du pays? À Beni par exemple, il y a beaucoup de gens qui souffrent, c'est adressé aux ONG qui ont développé ces sortes de centres de traitement ambulatoire pour approcher davantage les traitements, les conseils, surtout l'accompagnement psychologique des malades. Donc si des ONG qui sont dans le domaine de la santé nous attendent, il faut le faire. Mais au niveau de l'ONU SIDA, est-ce qu'il n'y a pas cette politique de vulgariser ces types de centres, des traitements ambulatoires, ou d'ouvrir des centres de dépistage dans les milieux publics comme ça se fait dans d'autres pays?
Mais oui, vous savez qu'au niveau de l'ONU SIDA, on a la stratégie qu'on a appelée 3x5, c'est-à-dire que d'ici la fin 2005, il faudrait qu'on mette sous traitement 3 millions de personnes vivant avec le VIH. Et vous savez que dans le cadre de cette initiative, nous sommes en train de travailler, les experts de l'OMS, et j'ai discuté d'ailleurs avec Dr Pascal Milingue, qui a en charge ces programmes, et il m'a dit que, il est tout à fait disposé à venir en parler avec vous dans les jours à venir, si vous l'appelez, mais il y a effectivement une action qui va être menée pour essayer de faciliter un meilleur accès au traitement ici en République démocratique du Congo dans les mois à venir.
Cap sur une autre ville de la République démocratique du Congo pour parler toujours de la lutte contre le sida. Mais avant d'arriver à Bounia, je dis merci au professeur Sakasaka qui est venu commenter avec nous ce sujet, le premier que nous avons traité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mot d'espoir, professeur?
Le premier mot d'espoir, c'est votre engagement. Je voudrais vraiment saluer l'engagement des Radio Okapi dans la mobilisation communautaire et dans la sensibilisation en vue d'une riposte à s'approprier à ces mâles qui nous frappent très durement. Je pense que c'est ce que nous attendons de tous les confrères et de tous les collègues, c'est que nous puissions joindre nos efforts pour qu'ensemble nous allions de l'avant et que nous puissions vaincre cette épidémie.
Merci beaucoup, professeur, pour ce mot d'encouragement. Je rappelle que vous avez formé des centaines, des milliers de communicateurs aujourd'hui. Nous allons nous rendre à Bounéa. Là-bas, les choses se passent comme si le sida était un mythe. Pour la plupart des adultes, l'abstinence est la seule méthode efficace capable de préserver les populations contre cette maladie que l'on considère comme un mal du siècle. C'est peut-être la raison pour laquelle le préservatif passe pour un produit rare dans les chevilles de l'Itourie. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bounéa notre consoeur Georgette Odia. Georgette Odia, bonjour.
Bonjour Alter.
Alors à Bounéa, le préservatif passe pour être un produit rare dans les chevilles de l'Itourie.
Oui, tout à fait Alter, à quelques exceptions près, il est rare. Il est rare, sinon difficile de trouver un préservatif ici à Bounéa. Que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les pharmacies, le préservatif est presque introuvable.
Dites-nous Georgette, comment explique-t-on cette situation à Bounéa? Est-ce que la population qui repousse l'usage du préservatif ou c'est peut-être la rareté qui ne favorise pas que son usage soit répandu dans toute la ville?
Apparemment, c'est pour l'une et l'autre raison à la fois, Walter. Nous avons posé la question au docteur Lonema Vagerou, médecin inspecteur de Bounéa. Voici sa réponse sur la rareté du préservatif dans les chefs-lieux de l'Itourie.
Il y a une forte demande de préservatifs. Nous avons sensibilisé suffisamment la population de la ville de Bounéa et des environs, mais c'est vrai que les préservatifs, on les retrouve rarement dans des pharmacies, rarement même sur le marché. Une fois la trace logistique a essayé de disponibiliser pour la population, mais à quantité vraiment insuffisante. Nous demandons aux hommes de bonne volonté, aux ONG, de pouvoir nous approvisionner en préservatifs pour pouvoir aider ceux-là qui ne peuvent pas faire l'abstinence à pouvoir se protéger contre ces virus du sida.
Docteur Lonema Vagerou, médecin et inspecteur de Bounéa. Georgette Odia, je reviens à vous. Que répondent les populations de Bounéa ou qu'est-ce qu'elles disent devant une situation comme celle-ci? Est-ce qu'à Bounéa, on réclame l'usage du préservatif ou les populations à Bounéa, les bouniatropes, si vous voulez, s'en passent de ce moyen de lutte contre le sida?
Ici à Bounéa, Walter, les avis sont bien partagés sur l'utilisation des préservatifs. Pour certains, son usage est souhaité. Pour d'autres, par contre, cette pratique est de nature à encourager la débauche. Un point de vue soutenu par les chrétiens et les vieux.
Voilà, qu'on vient d'entendre certaines réactions des habitants de Bounéa. Georgette, tout à l'heure, on a laissé parler Dr Vanerou, qui est médecin inspecteur de Bounéa. En parlant avec lui, est-ce qu'il vous a donné peut-être une idée sur la prévalence du VIH-Sida dans la ville de Bounéa?
Oui, Walter, bien que le dépistage volontaire ne soit pas encore rentré dans la culture de la population de Bounéa, l'inspection urbaine de la santé estime environ 10% les taux actuels de prévalence du VIH-Sida dans la ville de Bounéa.
Alors, c'est ce qui en ressort, c'est que les habitants de Bounéa doivent... On comprend peut-être que les gens qui vivent dans cette partie vivent sans prendre des précautions nécessaires pour se mettre à l'abri de cette pandémie qui fait de nombreuses victimes chaque année à travers le monde, parce que le taux des 10% c'est assez élevé quand même, Georgette.
Oui, Walter, voici peut-être la raison de le dire, car il suffit de se rendre dans le club de l'Inganda de Bounéa pour s'en rendre malheureusement compte. Les jeunes qui constituent d'ailleurs la frange de la population la plus touchée se comporte comme si de rien n'était. Il se livre à cœur joie à l'activité sexuelle sans prendre même des précautions. Cependant, quelques jeunes commencent à réfléchir sur la question. Pour ces jeunes, qui sont en petit nombre, ils sont conscients qu'ils doivent réglementer leur conduite et avoir un comportement responsable.
Le mieux, c'est d'aller se faire dépister par un médecin. Si à l'issue de ces dépistages, il se révèle que vous êtes séropositif, le mieux à faire est de prendre cette distance. Il ne faudra pas aussi contaminer les autres, sinon ce sera aussi un crime. Le mieux à faire, c'est de s'abstenir.
Voilà, un jeune qui est dans la tranche de ceux qui prennent conscience de la gravité de cette pandémie. Georgette Odia, merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations. Nous restons sur le thème du sida dans ce magazine Okapi Action. Vous remercie beaucoup et à vous et à toute l'équipe à Bounia. On se retrouvera très très prochainement pour une autre réalité quotidienne telle qu'elle se déroule à Bounia. Bonne journée et au revoir.
Au revoir Walter.
Un problème qui se pose, qu'on vient d'entendre de nos confrères de Bounia. D'abord la prévalence des 10% pour la seule ville de Bounia et ma foi certains comportements que vous avez entendu décrier tout à l'heure, des jeunes gens qui ont l'impression que c'était un mythe plutôt que ce n'était pas une réalité. Mais non, les scientifiques sont formels, les chiffres le disent, le sida n'est pas un mythe, c'est une réalité, il faut faire face et c'est pour ça que nous en parlons. Pour commenter cet aspect de choses, nous avons en studio docteur Yali. Docteur Yali, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes médecin chef de staff pour l'ONG Amo Congo Kinshasa. Et on sait que Amo Congo a un programme de lutte contre le sida, de prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'abord le volet sida au niveau de Amo Congo?
Merci pour la parole. Dans notre ONG qui est Amo Congo, jadis on appelait ça Amo Congo, aujourd'hui on appelle ACS Amo Congo, qui signifie Action communautaire contre les SIDA pour les orphelins du Congo vivant avec ou sans le VIH. Mm-hmm. Nous sommes principalement dans la ville de Kinshasa, aussi dans les Bas-Congo, précisément à Matadi, dans la province de Katanga, précisément à Lubumbashi. Dans notre ONG, nous avons deux volets de la lutte contre les SIDA.
Okay.
Le volet préventif, principalement dans les actions de la promotion des CDV, les conseils de dépistage volontaire, et dans la prise en charge globale de personnes vivant avec le VIH ou les personnes affectées par le VIH.
Bon, vous avez parlé de la première branche, les conseils, c'est une sensibilisation que vous faites. Comment ça se passe, le premier volet?
Dans les volets préventifs, qui est la promotion des CDV, nous avons une équipe formée par l'organisation qui descend dans la cité, dans la communauté pour faire la promotion de CDV. Donc appeler les gens à se faire dépister pour connaître leur sérologie, leur statut sérologique. Mm-hmm. Parce que le CDV revêt plusieurs avantages. L'avantage préventif, les avantages préventifs, aussi les avantages, si je peux dire, curatifs. Mm-hmm. En ce qui concerne les avantages préventifs, il y a d'abord l'adoption d'un comportement responsable. Il y a aussi ce que nous pouvons dire la libération du stress. Quelqu'un peut-être qui a eu une relation suspecte avec un partenaire, il vit toujours dans un état d'angoisse. Quand il fait son examen, se fait dépister, son résultat sort, soit positif ou négatif, il adopte un comportement et ça lui libère aussi du stress. Et ça fait toute partie des avantages préventifs des CDV. Aussi, le CDV a cet avantage, surtout pour les jeunes mariés ou bien les fiancés. Ça nous permet aussi de connaître la qualité des enfants qu'on aura probablement si on se marie. Parce que avant d'entrer dans le mariage, on se fait dépister. Donc, les fiancés et la fiançaille se font dépister et ils connaissent leur état sérologique. S'ils sont tous négatifs, ça va. Donc,
ils abordent l'avenir avec beaucoup plus de confiance, avec moins de crainte.
Ok, c'est ça. Oui. Et ils planifient aussi leur futur facilement, sans problème. Donc, ce sont là les avantages préventifs que revêt le CDV. Il y a aussi les avantages, si je peux dire, curatifs, surtout dans la prise en charge précoce des séropositifs. Parce que plus tôt on se fait soigner, plus tôt on peut retarder l'apparition des sida maladies. Mm-hmm. Donc, comme chez nous, il y a la prise en charge qui est holistique, globale. Nous faisons la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale, la prise en charge même spirituelle.
Ok, d'accord. On ne va pas parler de la prise en charge spirituelle. Parlons de la prise en charge médicale. On suppose que vos malades sont traités sous antirétroviraux. Quel est le coût? Parce que c'est ça l'inquiétude de certains auditeurs qui nous ont appelés tout à l'heure.
Si vous pouvez le permettre, dans notre centre, nous recevons d'abord les orphelins dissidents, les victimes dissidents. Qui peuvent être le PVV et non.
Donc, ceux qui sont infectés et ceux qui sont affectés.
Affectés, ok. Ouais. Et nous recevons aussi toutes les PVV qui peuvent venir chez nous. Mm-hmm. Et dans notre centre, dans la prise en charge médicale, nous avons les traitements des pathologies communes, d'abord, comme des malaria. Mm-hmm. Nous avons aussi les traitements des infections opportunistes, qui attaquent principalement le PVV. Mm-hmm. Et nous avons aussi, nous faisons aussi la trithérapie, les antirétroviraux. Mm-hmm. En ce qui concerne les deux premiers volets des soins, le traitement des pathologies communes et des infections opportunistes, c'est ouvert et c'est gratuit à tout le monde qui est PVV. Pour la trithérapie, ça demande un peu de coûts.
C'est-à-dire combien?
Ça dépend. Bon, le traitement.
Cette émission, c'est une émission information à caractère social, info public, donc service public à nos auditeurs.
Oui, nous avons deux volets pour répondre à cette question. Il y a d'abord le paramètre biologique. Et les coûts même, si on peut dire. Oui. Avant que quelqu'un commence cette trithérapie, il y a des examens qu'on doit faire, qui demandent aussi beaucoup de moyens. Oui. Il y a des examens des laboratoires, il y a le typage qu'on fait, il y a les examens biologiques, urée, créatinine, les enzymes hépatiques qu'on demande. Ça demande de l'argent. Oui. Et les coûts, aujourd'hui, c'est les coûts, proprement dit, c'est aux alentours de 29 $.
29 $. 29 $ oui. Par mois ou
par mois, c'est okay. Environ $1 par jour.
Ok.
Quand même, bon, il y a d'autres gens qui commencent et à un moment donné, ils sont essoufflés, ils abandonnent.
On a entendu tout à l'heure le professeur Sakasaka qui disait qu'avec les efforts consentis de la communauté internationale et des deux acteurs nationaux, on pourrait arriver à un chiffre plus bas. Et où sont situés vos centres, les adresses physiques, comme ça les gens peuvent venir, c'est écouter les conseils, aller jusqu'au dépistage.
Ok, merci beaucoup. Notre centre se situe sur l'avenue Asosa, numéro 10, dans la commune de Kassavubu. C'est précisément le centre des soins ambulatoires et conseils. Et nous avons encore notre centre qui est situé sur l'avenue, sur le boulevard, dans la commune de Ndjili.
Oui.
Non, quartier 7. Présent, j'ai oublié l'adresse.
Boulevard Lumumba, c'est ça?
Le boulevard Lumumba, numéro 254.
Le grand boulevard qui va vers l'aéroport?
Non. Dans le quartier 7, quartier 7 dans la commune de Ndjili, non le du marché, c'est sur l'avenue commerciale, précisément. C'est l'avenue commerciale numéro 254. Là, nous avons un centre de dépistage volontaire. Nous appelons tout le monde qui veut connaître son état sérologique de passer et de se faire dépister gratuitement. Il y a des ressources humaines qui sont bien formées, qui sont là, ils sont gentils. Et qui peut toujours les accueillir.
Très bien, je veux soumettre à votre appréciation quelques réactions des auditeurs. Dieudonné Bilibili de Isiro, ils ont le même problème que Bounia, c'est-à-dire les préservatifs coûtent assez cher, alors qu'ils veulent bien utiliser les préservatifs, c'est important. Les préservatifs ne sont pas partout.
Ouais, ça c'est un problème. Je venais à peine il y a 2 mois d'une région, d'une province, présente dans l'Équateur, où j'ai vu aussi que les préservatifs ne se fait pas voir. Et pourtant ici, dans notre ville province de Kinshasa, il y a beaucoup de préservatifs.
On dit Wednesday.
Wednesday, ça se vend partout, et ça se donne même gratuitement. Mm-hmm. Mais à l'intérieur, il se pose aussi des problèmes, il y a les problèmes religieux. Il y a d'autres gens qui ne veulent pas porter le préservatif, soit disant que c'est un péché, aussi soit disant que ça pousse les gens à la débauche. Mais il y a aussi un autre groupe de gens qui sont prêts pour utiliser le préservatif. Parce que le préservatif aujourd'hui fait partie de la flottille de l'espoir.
C'est Alain Teka de Mbandaka qui pense comme vous d'ailleurs. Le préservatif n'est pas mauvais, écrit Alain. Et on dirait que ceux qui ne veulent pas l'utiliser sont plus des chrétiens, mais seulement ils doivent savoir que c'est important pour se protéger. Fin de citation, c'est la réaction de Alain. Et puis Pierre Loukonkini de Kananga constate qu'ailleurs, il y a beaucoup de produits maintenant pour soigner le sida. Enfin, les antirétroviraux, et pourquoi les ONG ou le gouvernement ne feraient pas un effort pour que ces produits arrivent au Congo et en Afrique entière?
Oui, moi je crois que le gouvernement est en train de faire, de fournir beaucoup d'efforts. J'ai dit ces produits coûtaient $1000, après c'était $200, aujourd'hui,
on est à 29 par mois.
Aujourd'hui, c'est 29 par mois. Quand même, je crois que le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts. Demain, je pense que ça peut descendre 10 jusqu'à, pourquoi pas, un jour être gratuit comme dans d'autres pays.
Voilà. On y arrivera. Docteur Mayali, je rappelle que vous êtes médecin chef de staff d'Amo Congo pour Kinshasa. Je vous remercie d'être venu. Au revoir et à bientôt.
Okapi. Un seul pays, une seule radio. Okapi.